Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Rage, mais Rage, les premiers pas, la prise en main, les premières heures de jeu, Ico et Shadow of the Colossus, des nouvelles productions, des grosses sorties du moment, enfin bon, en HD, Monsieur Fall, la minute culturelle, et puis, bon, on va pas vous parler, on va pas faire le match de foot entre PES et FIFA, on va surtout parler de FIFA, hein, pourquoi ? Parce que, enfin, on détaillera ça tout à l'heure, et puis je commence en accueillant mes deux chroniqueurs du jour, un petit nouveau dans Silence on Joue, Jean Z de France Info. Bonjour Jean Z.
Bonjour Jean.
Oui, bonjour Jean. Ouais,
voilà, oui, pardon. Ouais, ça va, on va s'en sortir comme ça. Et Patrick Elio de Rogamer.fr et de Hitphone.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Jean, avec tu vas nous parler de Nintendo.
Alors la bonne ou la mauvaise nouvelle, à vous de choisir.
Pour Nintendo, pour les autres.
Ouais, pour Nintendo surtout. Alors on va commencer, on va dire par la mauvaise. 6 mois après sa sortie, la 3DS a été piratée par évidemment un groupuscule nommé Crown 3DS, hein, déjà ça flash, ça claque ouais. Déjà. En fait, ils ont fait un faux circuit imprimé, hein, copiant celui de la 3DS, hein, ils ont copié la carte mère, et ils ont fait tourner une ROM de Splinter Cell 3D.
Ah oui, donc
3D.
Ils n'ont pas vraiment piraté la 3DS, non. Ils en ont créé une de toutes pièces.
Ah, c'est hardware, exactement, donc là c'est beaucoup plus lourd, on va dire, ouais. dans la gestion du piratage. Alors on ne sait pas s'ils vont vouloir revendre l'invention, à mon avis c'est un coup pour se montrer, hein, pour faire briller la ligue, le shield, ouais. Et donc le crew, et donc voilà, mais bon, pas de quoi flipper je pense pour
mais donc
l'instant.
Ça n'a rien à voir avec les linkers de la DS.
Les linkers de la DS, donc effectivement la cour d'appel de Paris qui vient d'interdire l'importation et la revente en France des linkers, les fameux R4 qui permettaient tranquille de pirater sa DSi.
Donc voilà, on vient de nous annoncer 30 dépôts de bilan avenue de la République.
Exactement.
À Paris.
Exactement. Et de lourdes amendes, hein, tout de même. Ça va jusqu'à 5 millions d'euros. Je pense que là, ça tape un grand coup. Effectivement, ouais, on ne va plus importer ni vendre ces R4 en France.
Parce que, il y a eu un premier jugement. Hein, c'est pas tout de suite que ça a été interdit, mais la dernière fois, en fait, ils s'en foutaient complètement. Alors, je sais pas si c'était un jugement du tribunal qui n'avait pas vraiment de conséquences, mais c'est vrai que dès le lendemain, on pouvait continuer à trouver des linkers dans ce coin-là de Paris, en tout cas, ou sur Internet. Enfin, à voir.
Mais c'est vrai que sur le R4, il y a un problème. C'est ce que disait le premier acte du procès, la première décision. C'est que c'est aussi une banque de données. Enfin, ça peut marcher comme une clé USB, comme une carte mémoire, comme une carte multimédia, et pas forcément une carte pour pirater, sa DS. Bon, là, pour le coup, ils sont revenus sur leur jugement et ils ont tapé fort.
C'est vrai que c'est un peu l'utilisation majeure, enfin, oui, majoritaire quand
c'est
même.
Ça, voilà.
Patrick, après Jean-Paul Cuisset qui sort son jeu bientôt, après
Eric Chahi. Exactement, cette semaine, je ne vais pas vous parler d'Eric Chahi, on va changer un petit peu. Hein.
mais on va vous parler d'un autre grand nom mythique du jeu vidéo de la grande époque. C'est Frédéric Reynal, qui était assez discret depuis un petit moment.
L'avait vu chez Ubisoft présenter un projet de laser tag un peu bizarre.
Mais bon, voilà, on ne savait pas trop sur quoi il travaillait. Et en fait, ça y est, il a commencé à lâcher les infos. Moi, j'ai vu ça sur le site de Bertrand Hamard, qui l'a interviewé, je crois que ce week-end, il y a quelques jours, où ça y est, il a commencé à lancer des noms. Il nous a expliqué que son prochain jeu, ça allait s'appeler Boxon. Ah ouais, c'est comme ça, c'est
des détails. Hein.
Années 80.
Alors ça va sortir sur PC, sur Mac et sur les bécanes iOS. Ah, donc ce serait un jeu de réflexion qui jouerait sur les couleurs et sur tout un système de petites pièces.
Parce qu'il y avait eu une bêta fermée, je crois, d'un jeu web chez Ubisoft fait par Reynal, mais on n'a pas de nouvelles. Non, c'est pas celui-là. C'était pas le nom, mais on n'a pas de nouvelles depuis quelque temps. Hein, mais
voilà. Donc ouais. On est content quand des nouvelles tombent. Donc là, c'en est une. On a un titre pour Boxon qui on ne sait pas quand il arrive, je crois. Et il a aussi lâché des infos. C'est là où j'ai eu ma petite larme, évidemment. C'est quand, évidemment, il a parlé de Little Big Planet, Little Big Adventure, en expliquant qu'il ne serait pas contre du tout le fait d'adapter les deux premiers opus qu'on a connus sur PC sur des machines d'aujourd'hui. Hein. Donc, oui, il faut y aller, on est tous d'accord. Voire même à développer un troisième opus qui serait impossible. Pour l'instant, rien n'est affirmé, mais c'est pas ça pourrait se faire, et c'est vrai qu'on sent que c'est dans l'air du temps aujourd'hui de faire revenir un peu ces titres emblématiques.
Alors Little Big Adventure, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou en tout cas qui ont c'est des souvenirs un peu vagues, il faut s'en souvenir que c'est l'époque où la 3D arrivait, mais isométrique. La 3D la 3D isométrique, c'était souvent des angles, c'était très anguleux la 3D, et là Little Big Adventure c'était tout en rondeur.
C'était très joli, avec des couleurs assez pastel, et puis surtout un système de jeu très intéressant avec un personnage dont le comportement pouvait être adapté selon les touches, etc. Donc c'était bourré de trouvailles les deux premiers, et évidemment on serait super content de pouvoir s'y replonger et de voir une suite, hein, parce que j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire autour de cet univers qu'on n'a pas vu depuis quelques années quand même.
Alors le com des com de la semaine dernière, Kintaro, Erwan, Repeat After Me, Rotastique et non pas Rostatique ou Rotostatique.
Mais tu t'es approprié le nom en même temps.
Donc Rotastique en même temps, hein, ceux qui cherchaient sur le PSN ou le XBLA ne pouvaient pas se tromper. Hein. Takamine qui nous dit j'ai testé la demo de Burnout Crash, et bien je dois dire que j'ai été très déçu. Comme beaucoup, j'attendais avec impatience que l'hérésie de supprimer le mode Crash dans le dernier Burnout soit corrigée. Il restait bien un mode Crash en Burnout Paradise, mais sans objectif, ça perdait beaucoup d'intérêt. Dans Burnout Crash, ils ont remis les objectifs, mais ils ont viré toute notion de réalisme graphique pour nous faire des accidents de majorette. Je n'accroche pas du tout. En même temps, voilà, c'est un jeu XBLA. Il ne fallait pas peut-être s'attendre à la perfection graphique d'un Burnout au prix fort. Hein. Mais par contre, Alex Kidd, MW, hein, c'est son pseudo qui vient, il revient aussi sur Burnout Crash. Dommage que vous n'ayez pas parlé des nombreux bonus, la pizza, l'ambulance, les finals. C'est vrai que c'est vraiment des trucs assez marrants. Et surtout de la bande originale, peut-être que Patrick aurait craqué en entendant le groupe The Primitives dans le menu d'intro du jeu. Je ne sais pas, tu connais, non?
Mais il faut que j'essaye ce jeu, on en est parlé la semaine dernière. Oui. Et bon, voilà.
Et alors, un râleur, le râleur de la semaine, c'est Fiv. Fiv, alors il a déjà beaucoup aimé notre festival de trolls hein, sur George Lucas, le rétro gaming, les FPS consoles, il s'est bien marré. Mais par contre, ce qu'il n'aime pas, il nous dit quand vous parlez de jeux multiplateformes, c'est précisé, mais quand vous parlez d'un jeu en exclus, c'est clair, on sait sur quelle console on cause, mais dès qu'on ose parler de jeux mobiles, il n'y en a que pour iOS. What the fuck, Android, Windows Phone, RIM, WebOS, vous ne pas me dire qu'ils sont minoritaires dans les smartphones. Apple, monsieur, n'a pas le monopole des bonnes applications.
On est bien d'accord. Le sujet la semaine dernière, c'était Overworld qui, je crois, n'est pour l'instant sorti que sur iOS. Et le fait est que moi, je travaille sur un site dédié aux jeux iOS. Donc voilà.
Voilà. Et
ce qui explique ceci.
Alors moi
après, on peut aussi discuter des autres plateformes.
Je suis passé de l'autre côté avec joie d'ailleurs. Donc je ne suis plus sur iOS. Après, je dois vous avouer que je suis encore un tout petit peu sceptique sur la librairie. Alors il y a un topic hein, dans Silence dans les formes de Silence on joue
sur Android,
sur les jeux Android. Android, il y a quelques bons titres, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais c'est vrai que par rapport à la production sur iOS, il y a encore du boulot, notamment, bah voilà, c'est sans doute les très bons développeurs indépendants qui sortent en majorité leurs jeux sur iOS, sans doute une question de rentabilité.
Ça pourrait être aussi intéressant.
Et puis les gros arrivent aussi, oui, c'est une question de rentabilité.
Bien sûr,
c'est
ça pourrait être intéressant de comparer.
On achète, hein, contrairement à Android. Ouais. Hein,
comparer les versions pourrait être intéressant aussi, enfin voilà, c'est des choses qu'on peut,
imaginer mais sans problème. On va y revenir, on va pas oublier les autres. Promis. Elizabeth tells me you're a man we can trust. Someone who can help us in the fight against the authority.
For years, we've been running, hiding. Searching for the key, something to turn the tide in our favor. And for the first time, the authority has something to fear. Le retour d'ID Software sur le devant de la scène, ça faisait quand même un bail. Ça faisait quand
quelques
même un bail.
Quand même,
ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas trop eu de leurs nouvelles. Mais enfin, si, on en avait, on savait qu'ils étaient sur, sur un jeu qui s'appelait Rage.
Ça fait quelques années
qu'ils avaient, ils avaient fait des démos techniques très impressionnantes, des systèmes de textures absolument révolutionnaires où toutes les textures étaient stockées sur un seul truc, les méga textures. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que ID Software, on est habitué, c'est de la démo technique avant de faire un jeu, mais ce qu'ils sont capables de faire aussi, c'est des bons jeux.
Et, ouais.
Et voilà, c'est le cas sur Rage ou pas, Patrick.
Eh oui, alors effectivement, c'est un jeu que j'attendais beaucoup sur la fin d'année. Moi, je suis assez fan des productions ID depuis quelques années. Alors, moi, j'avais eu des déceptions sur Doom 3, qui était le dernier gros titre emblématique.
Oh, tu vas pas te faire des copains.
En mode solo
de la série. Tu vas pas te faire des amis. Hein.
On peut en parler, on est là pour en parler. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup l'ambiance Doom 3. J'avais beaucoup apprécié. En revanche, je crois qu'il avait un côté couloir qui faisait que, voilà, on n'était pas dans les canons, je trouve, de ce que faisait ID Software à l'époque.
C'était assez
conservateur.
Moi, Doom 3, ce que j'avais pas supporté, c'est que le mec savait pas se servir d'un Chatterton pour mettre sa lampe torche sur son fusil à pompe.
Ça pouvait se rectifier, ça.
C'était
un autre sujet. Donc, Rage, évidemment, c'était très attendu. Ça fait quand même quelques E3 qu'on va tourner le jeu. C'est vrai que ça fait quelques années d'attente et effectivement donc là on a pu le prendre en main quelques heures, on a joué quelques heures au jeu, je pense qu'on reviendra peut-être dessus la prochaine fois. Ce qu'on voulait donner aujourd'hui
prochaine.
c'était un premier ressenti sur le jeu. Moi j'ai vraiment accroché tout de suite. Alors c'est vrai que, comme je disais, j'aime bien les jeux ID Software en général, mais j'ai vraiment accroché à l'univers. Moi je trouve que c'est là où c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément ID Software là-dessus. C'est vrai que, comme tu disais, on les attend pour leur démo techno, pour leur performance graphique. Alors ça y est, c'est vrai qu'il y a une belle, c'est assez impressionnant au niveau de la fluidité. Moi je trouve que c'est vraiment ce qui ressort du jeu, au niveau techno, c'est certaines fulgurances graphiques sur la profondeur de champ.
Alors tu as joué sur
Xbox 360, parce que visiblement il y a des grosses différences entre les versions. Moi j'étais sur 360 et très franchement il y a eu des plans où je me suis dit mais on pourrait presque nous annoncer ça comme une nouvelle console. Enfin il y a des plans en extérieur qui sont assez bluffants en termes de profondeur, et là waouh, on se dit ouais quand même, on sent que les types de ID Software maîtrisent bien le domaine. Et donc la profondeur et le scénario, c'est là où on n'attendait pas forcément ID Software, et c'est là où je trouve que le jeu réussit son pari et surprend, parce que on rentre assez bien dans ce scénario. On en parlait avec Jean juste avant l'émission. C'est vrai, Mad Max 2, ça fait quand même quelques années que l'univers comme ça, un peu post-apocalyptique, kitsch, n'a pas été revisité en jeu vidéo. Ça
fait le post-apocalyptique automobile, en fait.
Ça fait quelques temps. Et là, c'est vraiment réutilisé avec brio. Je trouve que ça marche. Alors, le scénario, en deux mots, hein, il y a une espèce d'énorme météorite qui s'est écrasée sur Terre. Et juste avant, en fait, des terriens ont été protégés dans des capsules enterrées sous terre. Et quelques années, décennies après, lorsqu'ils remontent sur Terre, bah, il y a quand même quelques soucis. C'est que c'est envahi de mutants, de zombies et autres joyeusetés du genre. Donc, on émerge vraiment dans l'univers du jeu comme ça, en incarnant ce personnage. Et je trouve que ça fonctionne vraiment au niveau de l'ambiance. Et même même si c'est un petit peu rapide au
Tes
niveau
premières
de...
impressions, Jean?
Ouais, moi je m'attendais pas à grand chose en fait, hein. J'étais moins curieux, et l'univers Mad Max 2, je me suis dit c'est un peu has-been, bon c'est un peu foutu. Alors, limite si ça tombe dans le Mad Max 3, alors là vraiment on
est... Ah non, sort pas.
Tiny Turner, ouais.
Non, Mad Max ça s'arrête au deuxième, hein.
D'accord, effectivement.
Non, celui-là il est pas possible.
Le Doom, non, pas le Doom.
Excellente surprise, effectivement, la prise en main assez bonne. Bon, les trades françaises, les voix françaises, c'est toujours un petit peu le problème. Il y a quelques soucis de ce côté-là. Là, c'est vrai que c'est beau. Et puis surtout, il y a un mélange, donc le mélange FPS pur et dur. Alors là, ils maîtrisent complètement. Il y a des vrais moments de tension. Ils connaissent.
Ça reste un vrai FPS, ouais. C'est ça qui est bon.
Et le mélange avec la bagnole. Alors, généralement, le mélange des deux est assez catastrophique dans l'histoire du jeu vidéo quand on essaie de mélanger ces deux types de gameplay. Là, effectivement, le moteur trouve sa force et sa générosité, c'est que les deux, ça fonctionne. Alors, c'est pas un ultra jeu de bagnole, hein.
Il y avait eu ça dans Half-Life 2, il y avait eu des passages de bagnole aussi.
Et c'est vrai que là, c'est super bien imbriqué. Je trouve que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et comme tu dis, moi, je craignais aussi des sections de jeu un peu, mince, faut que je refasse un coup de voiture.
Ouais,
et non.
C'est ça.
Et c'est vrai que ça.
C'est un vrai western. C'est un vrai bon western. Bien.
C'est du western un peu post-apocalyptique.
Complètement.
Et puis il y a aussi une dimension en plus qui est un peu un soupçon. Il y a un soupçon de RPG avec des armes qu'on peut faire évoluer. On peut créer des objets. Le personnage évolue au fil du jeu. Ça, c'est vraiment en filigrane au fond de la partie. Mais ça vient aussi renforcer l'univers. Et ça fait aussi qu'on accroche vraiment à. Enfin moi, voilà, c'est ce qui explique aussi que j'ai un peu sombré dans le jeu. C'est, alors, ça, c'est un des ingrédients qui fait qu'on accroche.
Et alors, vous avez juste essayé le mode solo pour l'instant. C'est pour ça on est en.
Ouais. Alors visiblement, moi, d'après, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment avant tout un jeu solo. Enfin, on n'est pas sur Quake, hein. On est vraiment sur une nouvelle licence qui, avant tout, vend un univers, une nouvelle propriété intellectuelle. Et j'ai pas la sensation que le multi soit la priorité sur le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas essayé encore.
Il lance une licence, hein, effectivement. Ouais. Ce premier Edge, il faut qu'il marche. S'il marche, il y en aura d'autres. Et effectivement, ils appuieront, mais là, ça a l'air forcé. Ils appuieront sur le multiplayer, le multijoueur. Mais ça se sent de toute façon. Il y a quelques maps. On se dit, ça va pour le multijoueur. Ici, même dans le solo, on se dit, aïe.
J'ai vu une vidéo qui m'a fait presque une larme aux yeux. Il y a un easter egg. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Un easter egg à l'intérieur du jeu où à un moment il y a un mur, alors il faut, enfin je pense qu'il faut le connaître, hein, l'easter egg, il faut tirer dedans, enfin il faut s'approcher et actionner, et en fait ça s'ouvre et là on reconnaît le son et le graphisme
c'est
de Wolfenstein 3D.
Wolfenstein,
et en fait on reste avec le même moteur du jeu et on trouve une coupe en or à l'intérieur et on peut la ramener avec nous, et voilà, avec les sons d'époque, les sons de Wolfenstein 3D.
Ce qui est pas étonnant, c'est qu'on peut d'ailleurs personnaliser sa voiture aux couleurs d'ID, hein. Donc
il y a des skins et tout ça,
ce qui est toujours étonnant, c'est cette capacité de John Carmack de tout le temps être au top.
Ça fonctionne, on sent qu'il y a une alchimie
technologiquement, c'est incroyable quand même.
Et là il y a cette alchimie entre, on le disait, donc la techno, il y a aussi des systèmes de jeu qui marchent plutôt bien et qui sont je trouve qu'il y a un bon level design aussi. Je trouve que c'est plutôt bien agencé avec des missions secondaires qu'on enclenche,
bonne musique aussi, hein,
des bonnes musiques, c'est vrai que l'univers sonore est très bien, et vraiment cette fluidité, moi c'est vraiment la claque qu'on se prend tout de suite quand on lance le jeu. Alors ça se fait au détriment, d'après ce que j'ai compris, donc il y a cette techno pour les textures, hein, qui fait qu'on a cette profondeur de champ, etc. Ça se fait parfois au détriment de la résolution sur certaines textures vues de près. C'est vrai que des fois, bon, et on a aussi assez peu d'interaction avec les éléments de décor. Je sais pas si tu l'as remarqué. On peut assez peu casser de choses, etc. Mais ça pulse, c'est rapide, et ça c'est pour moi
très
primordial. Et je préfère autant avoir ça qu'avoir des interactions gadgets avec l'environnement.
C'est très très nerveux. Contrairement à Duke Nukem, il y a Duke Nukem d'un côté de la balance et de l'autre côté de la balance. Il y a Rage,
ça fait
et c'est
mal.
Une rapidité mais assez incroyable.
Et voilà, et là les gunfights sont vraiment speed, et c'est ce qu'on attend, et c'est bon.
Quelque part, il porte bien son nom, quoi.
Et ouais, je trouve que ça marche bien à ce niveau-là. et c'est vrai qu'imbriquer tout ça et que ça fonctionne, la conduite et tout ça, c'était vraiment pas gagné que ce soit.
On en reparlera peut-être un peu plus en profondeur la semaine prochaine. Alors Rage, ça sort ce vendredi.
Donc sur PC, console, 360, console. PS3.
Et ben on passe là. Souvenez-vous, moi ça me fait toujours quelque chose quand même. Ico, rappelez-vous, premier jeu de quand même un grand monsieur du jeu vidéo qui s'est imposé en deux jeux seulement, Fumito Ueda. Et c'est l'occasion, alors à quelques mois, on espère, de la sortie de The Last Guardian, mais on n'a pas de nouvelles, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Sony nous a la bonne idée, a la très 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 bonne idée de ressortir en version haute définition ICO et Shadow of the Colossus.
Et c'est d'autant plus une bonne idée que les jeux PS2 sont difficiles à trouver aujourd'hui, notamment ICO. Ouais, pour trouver une édition d'époque de ICO, ça devient difficile. Voilà, je suis très pragmatique là, mais ouais, c'est vrai que ça devient compliqué.
Alors on va commencer parce que c'est vrai que on n'a jamais parlé. Si, Shadow of the Colossus, c'est...
Ah, je ne sais plus. Là, je crois qu'il est sorti avant.
On commence. Donc on a évoqué ces jeux dans Silence on joue, mais j'ai envie d'y revenir un peu comme si c'était des jeux sortis aujourd'hui. Alors ICO, ça vous a fait quoi d'y rejouer et ça vous a fait quoi la première fois que vous y avez joué en fait? Qui veut commencer, Jean?
Moi, j'ai assez peu de souvenirs, mais ICO était resté quand même parce que c'est l'histoire de cet enfant maudit avec ses cornes qui doit en réchapper. Bon, il y a quelque chose du rite initiatique, quelque chose de l'enfance, et c'est super bien retranscrit dans cette remasterisation. On y est, on est tout de suite plongé dans cette aventure. On est perdu comme lui. C'est beau. Ils ont fait du beau boulot, en tout cas pour ce qui est d'ICO, Shadow of the Colossus. Moi, je reviendrai plus tard, mais vraiment, il y a un super boulot. Puis je trouve vraiment génial cette espèce de retour sur la culture. Enfin, le jeu vidéo, je sais bien qu'il y en a qui râlent, Zelda Ocarina of Time, tous ces jeux qui reviennent, qui disent ouais, mais bon, à quoi ça sert? Moi, je trouve ça vraiment important. Je me dis, le jeu vidéo a un bac catalogue. Et il peut revenir, on a un bac catalogue, et il peut revenir, et on peut le revendre aux jeunes générations en disant, certes, effectivement, ça peut ressembler à de la tirelire, ou à des vaches à lait, on peut ressembler à sa joueur, mais non, c'est pas ça. Il y a une culture, il y a une histoire, ça fait partie des cultures, surtout que les jeux n'avaient pas vraiment fonctionné à l'époque.
Alors surtout ICO, qui n'avait pas été du tout un succès pour l'époque, alors que c'était...
Succès critique, mais pas commercial.
Ouais, mais alors je pense qu'il y a eu quand même un souci quelque part, parce que c'est vrai qu'avec les années, ICO a gagné un statut, j'aime pas ce mot-là, mais on va le dire quand même, un statut culte dans les jeux vidéo, une sorte de référence de... Oui, le jeu vidéo, ça peut être un objet artistique, un objet intéressant.
Mais c'est la définition du culte, c'est-à-dire jouer par quasiment personne, ou vu par quasiment personne et référent quand même.
Porté au nu par un groupuscule intellectualisant du jeu vidéo. Souvent, c'était même un peu pénible.
Non, le problème qu'il avait, c'est que peu de gens l'avaient eu en main en fait. Ouais. Mais c'est vrai que les gens qui goûtaient en général sombraient dans le jeu parce que il a. Moi, c'est marrant d'ailleurs quand j'ai lancé la version HD dans mon souvenir. Il avait pas vieilli ce jeu. Enfin, je l'ai pas relancé depuis quelques années, honte à moi, je dois l'avouer. Mais j'ai pas le souvenir d'un jeu qui était marqué graphiquement. Maintenant je vous dis ça, je joue aussi à des plateformes antédiluviennes maintenant, mais et c'est étrange, je trouve en lançant la version HD aujourd'hui, j'avais eu l'impression que c'était un upgrade naturel, qu'il y avait pas eu de que ça se faisait très naturellement et que ça se prêtait vraiment au titre.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est à force de dire que ICO était la référence du jeu comme étant un art majeur, enfin c'était vraiment devenu la grande excuse, et on en avait presque oublié que c'était quand même un putain de bon jeu, quoi.
Oui, très atmosphérique. C'est l'atmosphère qui marque.
C'est un vrai titre intéressant, c'est un vrai jeu vidéo à jouer avant tout.
Oui, il a un gameplay.
C'est pour ça que l'aspect poétique, l'architecture incroyable, le travail sur l'architecture des niveaux, l'architecture de la forteresse elle-même. Ce qui est fou, c'est que finalement les textures n'ont pas été énormément améliorées.
C'est juste un polissage, il n'y a pas d'aliasing et de
ce genre de choses. C'est avant tout ça le passage HD. Et on reste fasciné, c'est beau.
Et l'ergonomie du personnage qui est super jouable, super réactif. Ouais. Et pour moi, c'est ça le cœur du jeu. C'est vraiment la façon dont il s'agrippe à tous les.
Non, mais c'est bien
de
dire que c'est un jeu.
Oui,
c'est un jeu parce que tout le monde est la poésie.
La poésie, d'accord.
Mais
il y a un challenge, il y a une narration, il y a quelque chose vraiment à faire.
C'est des plateformes, des énigmes, des combats. Enfin, voilà, il y a quand même tout ça. Le sound design, mon Dieu, c'est un truc incroyable. Entre dès qu'on sort avec le vent qui enfin il y a vraiment une ambiance absolument dingo et voilà et ce truc incroyable qu'a réussi Fumito Ueda qui est ce lien entre Ico et Yorda cette main avec les animations désynchronisées entre la quand Ico court et Yorda court en fait les deux personnages sont désynchronisés c'est ce qui fait que si Yorda court d'un côté et que tu changes et eh bien tu la tires elle manque de tomber enfin vraiment il y a vraiment quelque chose qui est très très bien représenté et voilà franchement
aujourd'hui je trouve dans le contexte d'aujourd'hui avec des jeux qui tapent dans tous les sens etc., je trouve que c'est rafraîchissant
même plus que rafraîchissant
comme tu disais
la saison est lourde
comme tu disais je pense qu'on a aussi aujourd'hui à notre âge aussi un devoir de montrer ces jeux là ce genre de jeu aux plus jeunes
papy
voilà, je pense que c'est la partie de ces titres qu'il faut vraiment montrer
oui puis on rentre dans la normale quoi je veux dire là c'est normal de revisiter comme d'aller voir des vieux films des années 80 70
et puis voilà il y a tellement
normal d'aller voir des jeux ces jeux là
bien sûr
et il y a tellement de gens qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Ico
beaucoup
franchement
il faut foncer ça vaut le détour
et donc il n'y avait pas que Ico et ça c'est le bénéfice on va dire de ressortir des jeux un peu plus vieux c'est qu'on peut en avoir deux pour le prix d'un. Shadow of the Colossus, donc toujours de Fumito Ueda, une claque aussi pour presque des quelque chose qui n'a rien à voir, un sentiment de gigantisme absolu quand on contrôle un personnage et on se retrouve face à ces colosses qui sont immense, enfin, et qui sont animés, qui sont là à l'écran. On a rarement eu cette impression en tant que joueur d'être aussi minuscule, d'être aussi face à des éléments assez gigantesques, assez incontrôlables. Alors, tu es plus mitigé, Jean.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un jeu qui annonce la modernité, qui annonce carrément les jeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pas un titre finalement sans ces monstres. Il faut du gigantisme en version HD sur les next-gen, que ce soit sur Xbox ou PS3. Il faut ça. Gears of War 3 est un très bon exemple là-dessus. Il faut ces monstres, ces gros boss. Alors moi, j'ai joué chez un copain donc à la sortie à l'époque. Ça ramait grave. La bête n'arrivait pas à suivre. La
PS2
n'arrivait pas à suivre.
Et
ça arrivait pas. Et là, on se dit bon ben chouette, elle revient sur PS3. Donc ça va tourner, ça tourne comme ça peut. Enfin, en tout cas, pas toujours. Je trouve que le point noir, c'est toujours le gameplay, finalement la gestion de caméra. On en revient toujours à ces points qui n'ont pas été rectifiés. Je trouve ça assez dommage sur Shadow of the Colossus. Mmh. C'est un jeu que je conseille à moins. Ico, je le trouve formidable tout de suite. C'est plus galère avec Shadow of the Colossus, passer cette impression de gigantisme, mais là aussi le sound design est génial, l'atmosphère, mais il n'y a pas de didacticiel. Je le trouve, c'est limite si on n'est pas à la barrière du prétentieux pour moi, donc je ne vais pas me faire des copains, mais si Shadow of the Colossus, on passe pas le côté poétique complètement. Et tant pis pour le joueur, j'allais dire démerde-toi, t'es tout seul, mais là vraiment démerde-toi, la gestion de caméra, c'est pas très grave, vas-y, débrouille-toi, trouve comment détruire ces 16 colosses d'affilée pour sauver ta belle. Voilà, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment la barrière, et peut-être qu'on arrive à The Last Guardian avec ça, et qu'on est à la barrière du attention entre l'art et le divertissement, où c'est qu'on se trouve et où c'est qu'on se place. Voilà, c'est vrai que je suis un peu plus réticent, et je trouve qu'il y a des points noirs de l'époque qui n'ont pas été.
Et je crois qu'il se trouve plus facilement sur PS2, un petit peu plus facilement. Bon, c'est relatif, mais
j'espère que j'ai pas cassé l'ambiance, mais je trouve plus bizarre ce Shadow of the Colossus.
Je vais le refaire quand même. Moi, je pense que là, j'ai commencé Ico, mais je pense que je vais enchaîner.
Alors, il était déjà, beaucoup plus bizarre à l'époque. Alors moi, ce qui était dingue, c'est que problème de caméra. Oui, ça ramait sa mère. Mais alors quelque chose.
Quelque chose de grand. Hein.
Mais par contre, je sais pas, j'oubliais de cligner des yeux parfois, quoi. Enfin, c'est juste.
C'est dangereux.
Ouais, c'est dangereux. Le souvenir, le premier colosse rencontré dans Shadow of the Colossus, c'est cette énorme créature ogre. Enfin, c'est un ogre gigantesque en pierre comme ça qui marche et on doit se rapprocher, on doit commencer donc à lui grimper dessus. On recommande. Alors il y a quelque chose, oui, il y a pas de didacticiel, mais on est dans un jeu qui se sert de l'héritage du jeu vidéo. En fait, en tant que joueur, on arrive à repérer ces petits points qui, ça doit servir à quelque chose. C'est pas la même matière.
Ça, c'est très finement joué.
C'était assez finement joué. Et puis c'est vrai qu'on ne dit pas quoi faire. Enfin, tu sais que tu dois le buter, ce colosse. Alors oui, si, il y a un mouvement de caméra au début qui explique, enfin, où on voit qu'il y a une zone un peu bizarre sur le haut du crâne. On commence à escalader. C'est un peu dur, hein, oui, parce qu'il y a des problèmes de caméra, il y a ce genre de choses. On y arrive, et puis on est très très content. On est très très content. Oui. On va enfin le buter, ce salopard de colosse qui nous a donné tant de mal. On plante l'épée et là, on vous le voit s'écrouler. Et franchement, j'ai rarement eu envie de chialer presque. Mais la mort de ce colosse qui s'écroule, c'était un ennemi. Et en fait, au moment où on s'écroule, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je l'ai tué? En fait, il était tellement magnifique et on se retrouve, on est dans la peau d'un assassin de colosse. En fait, c'est parce que c'est des belles bestioles. Elles nous ont rien fait.
T'as eu un beau cas de conscience devant le jeu.
Et franchement, pour ça, j'oublierais presque. Oui, peut-être la prétention quelque part.
Les deux jeux, je trouve, ont en commun cette faculté de t'interroger en tant que joueur sur ton rapport avec le personnage principal. On se demande un peu, est-ce qu'on se projette en lui? Est-ce que c'est un personnage extérieur? Et je trouve que c'est vraiment un point commun aux deux jeux.
C'est vrai que dans Shadow of the Colossus, par exemple, j'avais beaucoup, beaucoup moins aimé les phases à cheval, par exemple, dans cet univers très vide, très désertique. Et qui n'étaient pas des phases. Bon, alors, la première fois, tu dis oui, symbole de l'immensité, machin, du vide.
C'est assez désagréable.
Et finalement, à la fin, se galérer pour trouver les colosses.
C'est pas comme dans Rage, où dans Rage, tu peux buter du gladiateur.
Mais bref, en tout cas, moi, c'était un grand souvenir et encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir, parce que, je sais pas, comme beaucoup de gens, j'ai changé de télé depuis et il y a une définition qui est un peu plus belle. les jeux PS2, c'était pas très très joli sur cette télé-là. Et c'est vrai que le pouvoir y jouer en HD,
c'est vrai qu'il est très très beau. Et puis, ceci dit, on a rarement fait aussi beau colosse, même jusqu'en 2011, jusqu'à aujourd'hui, hein. Tu as raison de souligner ça parce que, ils font peur, on se sent petit, on revient à l'enfance, hein, c'est quand même un moteur de l'enfance, hein, et on se sent vraiment minuscule, c'est géant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je fais, mais par quel bout
et
je le
comment
prends?
Je fais,
mais c'est un désarroi absolu, mais il arrive à créer ça, tout comme dans Ico, on se sent complètement désemparé, et c'est une bonne sensation, je trouve, dans le jeu vidéo aussi.
Donc voilà, Ico, Shadow of the Colossus, les remakes HD sur PlayStation.
Pas d'installation,
3.
C'est ce qu'on dit.
Pas d'installation, contrairement à Resistance 3, ce qui est pas mal, je ne reviens pas sur Résistance 3, promis.
Puis 40€, je crois. Donc,
ouais, quarantaine. Ouais,
franchement,
il faut essayer.
Il faut pas d'hésitation. Vous n'avez pas le droit de ne pas y jouer si vous avez une PlayStation 3. On reçoit maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé d'apporter une touche de féminité à cette petite chronique. Oui, il suffit. Il y en a marre d'aller se friter des monstres, d'aller se latter et partir en guerre. Il est temps de passer à des choses sensibles et féminines, puisque je vous propose Etoc, un jeu créé par des filles, créé par Emmanuel Pillard et Barbara Turquier, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. C'est édité par Libellude, l'excellent éditeur de Dixit, et je dois dire que Etoc est à peu près sur la même veine, c'est-à-dire que vous allez faire des propositions et chaque joueur va essayer de deviner qui a proposé quoi. Le propos est la cuisine. Vous allez donc trouver dans la boîte des ardoises magnétiques et magiques. Vous allez pouvoir écrire dessus avec des Velleda. Vous allez magnétique puisque vous allez piocher des éléments que vous allez pouvoir coller en aimantant sur votre petite ardoise, et ces éléments sont des choses diverses et variées qui peuvent permettre de faire des plats, comme par exemple des asperges, vous avez aussi du baba, bouillabaisse, chèvre, boulette, branche, vous avez aussi des trucs comme poêle, papillote, etc. Et vous allez tirer des cartes menus que vous allez garder secrètement par-devant vous, en tout cas au début de la manche. Ces cartes menus sont des propositions plutôt rigolotes, comme par exemple le déjeuner de l'été, le repas le plus noble, le goûter sans dents, le dîner pour se faire pardonner, le repas des sorcières, etc., etc. Et l'idée va être de composer sur votre petite ardoise un menu avec les éléments que vous avez pioché au départ, qui sont aléatoires, hein, vous allez devoir vous débrouiller avec, vous allez devoir composer un menu qui va correspondre à ce que vous avez pioché au départ. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, on mélange les menus pour plus savoir qui a fait quoi, on les révèle, et là chaque joueur va essayer de coller chaque menu lu par les joueurs au menu au milieu de la table. Il va falloir trouver quel est donc le menu qui rappelle le menu des sorcières ou le repas le plus snob. Vous avez le droit d'utiliser des petits éléments, c'est pour ça qu'il y a un Velleda pour faire des liaisons, comme par exemple si vous avez, je ne sais pas moi, là, un exemple vite fait, vous avez pancake, vous avez porc, vous avez pépite et vous avez roquefort, et vous allez pouvoir composer le pancake au porc et aux pépites de roquefort, on va essayer de deviner. Alors vous avez le droit à plusieurs propositions de repas, un entrée, un dessert, enfin vous composez avec ce que vous avez. C'est assez simple, efficace, rapide, amusant, c'est pas un truc de brut, ça marche aussi bien avec les garçons car il est de bon temps, mes amis, de passer du temps avec la famille, avec les femmes aussi, il est bon temps de jouer avec des femmes autour d'une table pour éviter de passer pour un gros velu. Donc Etoc est fait pour vous, c'est familial, c'est rapide, à partir de 8 ans, donc vous pouvez jouer aussi avec des enfants si vous en avez, c'est très plaisant, c'est très agréable, ça change, des trucs de brut, c'est Etoc, c'est signé Emmanuel Pillard et Barbara Turquier. Pour des parties de 3 à 6 joueurs, 8 ans, 30 minutes maximum. Le matériel est splendide. Ça va vous coûter une trentaine d'euros dans toutes les bonnes boutiques et aussi les mauvaises. C'est ça qui est intéressant avec ce type de jeu de société. C'est vendu absolument partout. Courez-y, foncez si vous avez envie de passer du temps autrement que à la tête du monstre. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net. On vous rappelle jamais assez d'aller sur ce formidable site et aussi sur TrickTrack.tv avec des vidéos à chaque fois monumentale, hein. c'est absolument exceptionnel,
colossal.
Ouais. Et voilà, la minute culturelle, Jean, tu nous as confié avant l'enregistrement de cette émission que tu ne voulais pas
j'accepte l'humiliation.
Désolé
Clément, ton remplaçant ne gagnera pas beaucoup de points de plus que toi.
C'est un quiz donc réalisé par Kazam, et en fait donc c'est une thématique un tout petit peu spéciale, c'est la thématique Gameloft. Oui, la thématique Gameloft, c'est trouver l'inspiration. Et quand nous parlons d'inspiration, c'est pour être gentil. Donc, trouver le jeu d'origine. Trouver le jeu d'origine, je vous cite donc un jeu Gameloft et vous devez trouver le jeu d'origine. Enfin, au moins, on va pas chercher à se prendre un procès de nos amis de Gameloft.
Non,
on commence avec Gangstar West Coast Hustle.
GTA City.
Bien, non, c'était plutôt San Andreas, mais voilà, donc West Coast.
Ouais,
West Coast,
ah oui, c'est le premier, il y a un deuxième.
Nova, Near Orbit,
Allô.
Vanguard.
Allô.
Formidable, comme quoi. Real Football 2011.
FIFA,
non mais
FIFA,
très bien.
FIFA 11. Shadow of the Colossus, c'est pas possible. C'est
non,
God of War.
Hein.
God of War. Hein.
Nope.
Là, je me pends, là. C'est pas possible. Shadow.
La mystérieuse Prima Materia, une puissante et précieuse relique vénérée pendant des millénaires, devient une véritable menace.
Non.
Cachée
Zelda.
Dans un temple, elle est convoitée par un groupe de mercenaires qui veulent s'approprier sa puissance et réduire le reste de l'humanité en esclavage. Vous êtes Jason Cole, un ancien soldat travaillant comme journaliste d'investigation, et vous devez les arrêter. Non, ça vous dit toujours
Uncharted,
rien. Voilà, Uncharted. Voilà. Nathan Drake s'appelle maintenant Jason Cole.
Il est journaliste.
Modern Combat Sandstorm.
Modern Warfare, Call of Duty.
Voilà. Eternal Legacy.
Oh, la pression.
Entrer dans un monde de paysages spectaculaires dans ce jeu de rôle trépignant, digne hérité de ses prédécesseurs japonais. Ce scénario passionnant implique de grandes responsabilités. Vous êtes. Vous devez empêcher Algoa d'être détruite et rétablir le lien entre les humains et la nature.
Final Fantasy.
Ouais, voilà. C'est du Final Fantasy-like. Starfront Collision.
Star Fox, peut-être ?
Non.
Starfront.
Starfront. Bienvenue sur la planète Sinistrol, où les précieux cristaux de Xenodium sont convoités par un conglomérat minier humain, le Consortium, mais il n'est pas le seul à briguer ce minéral.
Starcraft
2 plutôt d'ailleurs. Soul of Darkness. Découvrez un fascinant monde gothique. Allez, là normalement vous devriez.
Oui, bah oui, ça c'est.
Vous incarnez Kale, un homme aussi puissant que mystérieux qui tente de sauver sa fiancée, la délivrer des griffes d'un ignoble vampire.
Castlevania.
Voilà, ah, merci.
Castlevania, pardon,
ouais, ça commence à devenir gênant.
Ouais,
hein.
Oui, c'est ça.
Crystal Monster.
Pokémon.
Bien joué. Et Order and Chaos Online. Explorez un vaste monde d'Heroic Fantasy et rejoignez des milliers d'autres joueurs
dans
World of Warcraft. Voilà. 8 à 2.
Ah, c'était pas si ridicule.
Ça,
non, j'ai mis deux pions.
C'est pas mal. C'est
très
pas
respectable.
Mal.
Hein.
C'est très respectable. Et donc, on passe du sport maintenant. FIFA 12 chez Electronic Arts, Pro Evolution Soccer 2012 chez Konami. Le match est connu, reconnu. Ça commence déjà à faire chier les auditeurs avant que ce chapitre soit commencé. Hein, oui, on va parler de.
Restez.
On va quand même parler de jeux de foot. Et là, il s'est passé quand même un truc. Les jeux de foot, c'est un peu comme les jeux de voiture. Pour en parler, il faut quand même trouver des angles d'attaque un petit peu originaux et tout ça. Mm-hmm. Autrement, ça finit toujours. C'est un truc où il y a un machin avec quatre roues. On
ça,
doit
on fait
suivre la route
ça, hein,
et
ouais,
on ne doit pas tomber dans le fossé. Hein, au-delà de ça, un jeu de voiture, c'est un jeu de voiture. Un jeu de foot, c'est un peu pareil. Vous êtes 11 sur le terrain, vous devez marquer dans le but en face. Et puis c'est pas mal. Hein, voilà, c'est pas mal. C'est de mieux en mieux d'année après année. Ouais, l'année dernière c'était moins bien que cette année. Et puis l'année prochaine ce sera mieux. Et alors là, bizarrement, sur ce FIFA, moi, il y a des trucs. J'étais content. Il y a vraiment des choses nouvelles qui sont arrivées et qui me font bien plaisir, notamment la défense. Mais je vais te laisser la parole, Jean, sur...
Tu as dit la chose principale, ouais. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est-à-dire que les années précédentes, PES et FIFA, se concentrer sur ce qui nous plaît, c'est quand même l'attaque. Hein. Je viens de prendre un 8-2... Je sais de quoi je parle. c'est toujours agréable à voir. Et là, ils se sont dit, mais non, pour faire toute la construction, intéressons-nous à la défense et on va durcir le problème. Effectivement, pour la contrôler, ça va être beaucoup plus dur. Du coup, les matchs à la FIFA de la bonne époque, bling bling, un peu comme ça, un peu brillant, les 8-2, les 10-0, les machins, c'est fini. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'on passe un cap, en mode facile, on peut encore retrouver le FIFA de l'époque.
Mais en mode joueur d'un même niveau.
En mode normal, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et là, fini.
Contre l'IA, hein,
même contre
l'IA, d'accord.
Et je pense que même les anciens joueurs de FIFA, ils vont prendre quelques tôles quand ils vont prendre de prime abord, ils vont prendre quelques tôles. Ah tiens, quelque chose a changé dans le monde FIFA. Et effectivement, et là on commence à construire. On n'est plus sur des schémas tactiques où il suffit de tirer au coin de la surface de réparation pour marquer un but. Non, attention, là c'est un peu plus compliqué. La défense est plus retors. Et je trouve que du coup ça embellit le jeu, hein, au-delà de d'autres nouveautés. Mais ça, vraiment, c'est le grand plus de ce jeu.
Alors,
c'est qu'il faut construire.
Oui, il faut construire. Et là tu parles en bon joueur de jeu de foot, tu parles de quand toi tu attaques.
Oui.
De la défense contrôlée par l'intelligence artificielle. Moi j'avais un énorme problème dans les jeux de foot.
Oui.
C'est quand moi je défendais.
Oui.
J'étais une quiche, mais alors un point. C'est-à-dire que en fait moi tous les gens hein, ou même l'intelligence artificielle, j'ai eu une tendance à m'empaler sur la défense et donc les joueurs contre lesquels je jouais arrivaient toujours à me piquer ma balle. Enfin bon, c'était assez pénible. Et moi j'étais très frustré parce que j'arrivais pas. J'étais très nul en défense. Et j'arrivais vraiment pas. Et surtout,
ça te soulage d'en parler. On sent que il y a un côté cathartique.
Effectivement.
Et ça lui arrive souvent, Erwan, de. Non, on est là pour ça aussi. C'est très bien.
C'est un traitement. Hein, c'est un traitement, silencieux.
Il faut.
et là, ils ont. Le système, le gameplay de la défense a énormément évolué. On se retrouve avec un vrai gameplay de défense déjà.
Ça enrichit.
C'est-à-dire qu'avant, on colle l'adversaire, on essaye de lui piquer la balle en le collant un peu ou on lui balance un gros tacle glissé en essayant de pas trop
prendre un rouge.
Ouais. Et à part ça, c'était pas très très surtout et... dans enfin surtout dans mon cas en tout cas, c'était assez assez difficile à gérer. Et là donc on obtient il y a un truc, il y a déjà le contrôler en fait, contrôler l'adversaire, c'est-à-dire que c'est semi-automatique. Ça c'est pas mal.
Il y a un pressing, il y a un pressing naturel.
Il y a un pressing naturel.
Et du coup en face chez Konami, ça donne quoi dans ce registre défense
Je t'avoue que la manette m'est très vite tombée des mains sur PES 12.
Ouais, moi j'ai joué quelques heures pour quand même faire le test jusqu'au bout. Bon, et de fait, on retombe sur les pas les vieux bugs, mais voilà, bah des vieux réflexes. Hein. On marque en faisant un petit centre au premier poteau. Généralement, ça pète en pleine lucarne. Les défenses, c'est le meilleur PES hein, qui existe, hein, mais seulement en face. Bon, bah voilà, on a la meilleure simulation. C'est-à-dire autrefois où FIFA était bling bling et PES était la simulation. D'ailleurs, il existe encore des joueurs, mais c'est dur de dur. Hein, on les fera pas changer d'avis. Et bah, les choses sont en train de d'évoluer grandement. C'est-à-dire que la grande simulation cette année s'appelle FIFA. Ouais. Alors jamais moi, je m'imaginais dire ça un jour. Mais effectivement, là,
toi, tu es un joueur PES.
Moi, je suis
base,
plutôt PES. Je retourne ma veste, mais malheureusement, parce que le côté simule. Ouais. Bah, il est plus
et moi j'arrive à défendre même quand on n'y arrivait pas avant ma défense était un vrai gruyère et c'est vrai que ce gameplay de défense donne envie de défense et donne une vraie réalité à la phase de jeu de défense qui était quand même la grosse faiblesse des jeux de foot. Quand on devait défendre et ben on changeait de joueur, déjà rien que le changement de joueur était une catastrophe. Il fallait gérer les gens qui étaient en automatique ou en semi-automatique ou en manuel pour changer de joueur. Bref, il y avait la défense, c'était pas une phase de gameplay très intéressante dans les jeux de foot.
Non, mais c'est ça.
Et là, j'ai trouvé vraiment, on a envie de la travailler. On a envie de travailler sa défense. On a envie de comprendre un peu comment ça marche et de gérer. Il y a le pressing, il y a le contrôle. En fait, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'il y a un pressing large. Il y a le pressing serré. Il y a toujours les tacles, le volley. Il y a le tirage de maillot qui arrive dans les jeux de foot. Et vraiment, vraiment, c'est un truc hyper intéressant au niveau
erreurs d'arbitrage aussi, ce que j'ai noté dans FIFA, donc c'est assez intéressant. C'est-à-dire que on met un grand coup de savate par derrière, bon allez un petit jaune, et puis on fait un petit tirage de maillot, mais alors totalement anodin, et on prend un vieux rouge des familles et on se dit mais c'est pas juste. Bah oui, bah c'est pas juste, ça s'appelle un match de foot.
Et on finit par gueuler sur l'arbitre et c'est à ça qu'on reconnaît une vraie simulation de foot. L'aspect simulation, on finit à insulter l'arbitre, donc là je pense que c'est
puis au-delà il y a l'ambiance FIFA alors ça par contre sur les supporters, le bruit de foule, l'ambiance du stade, bon là PES n'y est toujours pas, et effectivement là avec l'effet simulation en plus on tient un grand jeu qui s'appelle FIFA 2012 hein, en tout cas de foot.
Alors on n'a pas évoqué le mode carrière mais qui est aussi pas mal, qui commence à avoir vraiment de la gueule. Voilà, donc FIFA 12, on a réussi à parler d'un jeu de foot quand même. Les gars, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean?
Alors, trilogie, non plus, double trilogie Star Wars en Blu-ray, on s'était promis de pas en parler, je vais en parler. chapitre 1, c'est une nullité, le film est nul, je pense en 2 milliards de pouces par centimètre carré, ce sera nul.
J'ai
tout le boulot jusqu'au bout. Le 2, les histoires d'amour, on s'en fout un peu,
c'est
gâche un peu. Le 3, la revanche des Sith est extraordinaire. La guerre des étoiles, assez intéressant parce qu'on se dit, peut-être que George Lucas, il a bien raison de vouloir passer un coup de patine parce que les taches de peinture sur le casque de Dark Vador, parce que là on les voit, parce qu'il y a le Blu-ray, parce qu'il y a la haute def, parce que le côté costume un peu qui a pas coûté très cher, ça commence à se voir.
Et toi tu es pour des ajouts en plus, mais
qui laisse la version originale pour les puristes. Moi je suis d'accord, mais il y a un petit côté gâchant.
Mais il devrait laisser le choix, c'est ça.
Ouais, exactement, c'est ça.
Et là on l'a pas du tout sur les Blu-ray.
Non, on l'a pas du tout. L'Empire contre-attaque, ça a quasiment pas vieilli, c'est extraordinaire. Et même en Blu-ray, alors là vraiment c'est un très très beau. Et puis voilà le dernier qui est très chouette, qui est pas le meilleur ensemble. Les Ewoks est un peu enfantin et c'est un peu dommage. J'ai fait mon...
Bravo. Allez, les 6 films en moins d'une minute. Bosserais pas à France Info par hasard? Patrick,
moi je vais en faire 4 en plus rapide. Un coffret que j'attendais, alors je suis pas sur Blu-ray, je suis sur du DVD c'est un coffret qui vient de sortir chez Artus Film. Alors c'est un bon éditeur, moi, que je suis depuis un moment. C'est eux qui nous avaient fait un super coffret Bela Lugosi il y a quelques temps. Et là, ce nouveau coffret, ça s'appelle Destination Mars. Moi, je l'attendais depuis des semaines et des semaines. Il vient seulement d'arriver dans le commerce. C'est une perle. Voilà, je le dis clairement. On a 2 galettes dans le coffret, 4 films. Les Envahisseurs de la Planète Rouge, 24 heures chez les Martiens, Flight to Mars et Red Planet Mars. truffé de petits bonus très sympathiques, des courts-métrages et un packaging très très bon avec des lobby cards, des très soigné, wow. Ça vaut une vingtaine d'euros.
Ah, ça fait envie, hein.
Ah, c'est fabuleux. Vraiment, destination
Mars. Ça se trouve facile.
Mais j'ai trouvé sur Amazon, sans faire de publicité. Mais, alors, je sais pas si, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis peut-être de diffusion. Moi, j'ai du mal à le trouver. Je l'ai commandé en ligne. Et c'est vraiment une perle. Ça vaut vraiment le détour. Alors, on n'est pas sur de la HD, hein. C'est-à-dire que visuellement, les films datent un petit peu. Les masters sont pas forcément, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Et c'est vraiment intéressant de se, voilà, de se, s'approcher de ces années 40-50 où, voilà, la menace venait de, d'autres planètes. Ah, et voilà, c'est vraiment bon, la thématique de ce coffret, c'est vraiment intéressant.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre podcast. Ah non, c'est pas un podcast, on appelle ça de la radio. Alors oui, mais moi, j'ai un peu de mal maintenant. Donc ça existe aussi en podcast, ça s'appelle Sur les épaules de Darwin. Alors pour ceux qui veulent l'écouter, quand c'est diffusé, c'est tous les samedis à 11h sur France Inter. Et donc c'est podcastable sur le site de Radio France. C'est Jean-Claude Amezen, alors je sais pas trop d'où il vient, sans doute de la philosophie des sciences, de l'histoire des sciences, enfin ça. Et Sur les épaules de Darwin, il parle et il raconte finalement l'histoire des sciences, l'histoire de la biologie, avec de la philosophie à l'intérieur. C'est juste passionnant. On passe une heure à l'écouter. En ce moment, il nous explique les cycles circadiens des cellules ou comment les cellules biologiques règlent leur horloge interne sur le cycle de 24 heures des cycle jour-nuit, comment ça se passe ce cycle de 24 heures, d'où il vient, et comment ça fonctionne, et c'est voilà, ça fait 3 émissions qui nous explique
ça. Tu écoutes ça en jouant à FIFA ou
Non. Et franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment c'est une mise en scène sonore incroyable et Jean-Claude Amezen est vraiment passionnant. Donc je vous conseille Sur les épaules
de Darwin.
Ça passe
à quel moment?
Le samedi matin à 11h et autrement en podcast, ça marche très bien.
D'accord.
Aussi. Okay. Voilà. Et c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.